solution proposée par nettoyant.info.
Bonjour, je suis avec Jean Revest. Nous sommes Revest pour Revest.
Revest.
Revest. Nous sommes en Avignon, dimanche 11 décembre. Et M. Jean Revest fait partie de ce qu'on appelle le CAN ou la CAN 84. Qu'est-ce que la CAN 84?
Alors c'est le CAN, hein, parce que c'est le collectif antinucléaire de Vaucluse. C'est un collectif, donc ça veut dire que ce n'est pas une structure, c'est un regroupement assez informel, à la fois de particuliers et d'associations ou de gens engagés dans d'autres combats, mais qui se fédèrent sur un objectif précis, l'arrêt du nucléaire.
D'accord. Quand vous dites des gens engagés dans d'autres combats, de quel type, par exemple?
Ça peut être des combats sociétaux, des combats culturels, des actions de solidarité, etc., diverses et variées, mais qui fait sens sur la question du nucléaire et des dangers du nucléaire.
D'accord. Ça fait combien de temps qu'existe le...
Alors, le CAN 84 existe maintenant depuis 5 ans. Voilà, ça a été embryonnaire au début, et puis ça s'étoffe, hein, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près 600 personnes dans le Vaucluse. Donc, venant d'horizons très différents, hein, c'est à la fois des ouvriers, des employés, des profs, des jeunes, des personnes âgées, des retraités, voilà.
D'accord. Et donc, le territoire que vous touchez, c'est tout le département du 84 ou...
Oui, alors en tant que CAN 84, c'est le Vaucluse évidemment, mais comme vous le savez, la radioactivité n'a pas de frontières, ni administratives, ni politiques. Donc évidemment, se joignent à nous des gens aussi de au-delà du Vaucluse, c'est-à-dire du Gard, de la Drôme. Et dans ce sens-là, on s'est fédéré un peu en coordination interrégionale.
D'accord. Ce qu'on appelle le CAN ou la CAN Sud-Est, vous en faites partie ou c'est totalement autre chose?
Oui, alors on fait partie de la coordination antinucléaire Sud-Est, qui n'est qu'un support, qu'une vitrine amplificatrice des actions de terrain. Tout part de la population, des citoyens, et on a fédéré quelques moyens, essentiellement un site internet, sur une charte très claire qui est l'arrêt immédiat du nucléaire.
Aujourd'hui, on est le dimanche 11 décembre, vous prévoyez ici une action en Avignon. De quel type et dans quel objectif?
Alors c'est une action citoyenne au sens où c'est la population qui est à l'initiative, même s'il y a des tentatives de ci, de là, de récupération, on va dire, par des forces institutionnalisées.
C'est-à-dire?
Des partis politiques essentiellement qui prennent prétexte du drame de Fukushima pour essayer de se faire une virginité ou de mener leurs combats, qui sont leurs propres combats mais qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas dans des stratégies, nous, électoralistes ou politiciennes. Donc, en fait, l'objet de cette journée, c'est, comme ça a eu lieu déjà par le passé, de sensibiliser les citoyens sur le danger nucléaire et notamment de leur faire prendre conscience que le danger est immédiat, qu'il n'est pas à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, et que c'est une question sanitaire et de santé publique. Voilà, donc le but, c'est tenter d'accompagner l'élévation d'une prise de conscience.
D'accord. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, c'est quoi exactement? De quelle forme?
Alors, ce qui est prévu, c'est un rassemblement devant le Palais des Papes, ensuite de faire une déambulation dans la ville.
Visuellement?
Visuellement, donc il y aura des actions... de tenues nucléaires, avec masques, des cercueils, et voilà.
Avec cette couleur jaune qui revient
La couleur jaune et noire, parce que le nucléaire porte en elle la mort. Voilà. Porte en lui la mort.
Vous me disiez que le CAN existe depuis maintenant pas mal de temps. Quel regard porte la population ici sur le combat que vous menez? Et est-ce qu'elle est sensibilisée au risque nucléaire? Parce qu'on est quand même dans un secteur qui est le plus nucléarisé de France.
Oui, alors nous, c'est vrai que le Vaucluse se trouve au cœur du triangle de la mort, hein, c'est-à-dire on est entre les trois sites de Cadarache, Marcoul et Tricastin. Donc,
qui sont trois sites différents.
Qui sont trois sites différents. Voilà, Cadarache donc est un centre de recherche du CEA essentiellement, mais avec Areva et EDF, donc ça regroupe quand même les trois grands leaders du lobby nucléaire. C'est un centre, Cadarache, donc se trouve dans les Bouches-du-Rhône, hein, à côté d'Aix, au-dessus d'Aix en Provence. C'est un centre de recherche essentiellement sur le nucléaire. Il y a 19 installations nucléaires de base à Cadarache. Marcoul se trouve, elle, dans le Gard, Et là, c'est le haut lieu de la fabrication de la bombe nucléaire, notamment, hein, et du MOX, du
donc
terrible.
C'est du nucléaire militaire, là.
Nucléaire militaire et civil, puisqu'il fabrique aussi le MOX, donc, autrement dit, ce terrible combustible qui est à l'origine de Fukushima et de la catastrophe de Fukushima.
Qui est fabriqué par Areva.
Qui est fabriqué par Areva à Marcoul, effectivement, qui est une tentative de recycler et de mêler du plutonium et de l'uranium, donc la pire des bombes civiles qui puissent exister, quoi.
Voilà. Donc,
et puis troisième site, donc c'est Tricastin, qui se trouve à cheval sur le Vaucluse et la Drôme, donc sur Pierre Latte et Bolène. Et là, c'est le haut lieu de l'enrichissement de l'uranium, et qui comporte notamment 4 réacteurs nucléaires, qui ne produisent pas d'électricité pour la population ni pour les entreprises, mais qui servent essentiellement à alimenter le cycle de production nucléaire pour produire l'uranium, qui va ensuite être distillé dans toutes les unités de production, les centrales nucléaires de France.
Sur, avant de revenir à la question de départ, sur la vallée du Rhône, quels sont les sites qui produisent directement de l'électricité dont le commun des mortels se sert tous les jours pour faire cuire son repas ou...
En Vaucluse, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, puisque ça serait plutôt l'Ardèche, où il y a un peu Cruasse, voilà, qui produit un peu d'électricité pour la population. Tricastin, sur les 4 réacteurs, il n'y en a qu'un qui produit de l'énergie pour la population et les entreprises. Voilà, c'est tout. En fait, on s'aperçoit que sur les 58 réacteurs de France et répartis sur 19 sites nucléaires en France, il y a à peine la moitié qui servent à la population. Le reste, ça sert à faire du business purement soit en consommation interne, soit à l'exportation.
Donc, quel regard porte la population ici sur le combat que vous menez ?
Alors, c'est un regard qui évolue, évidemment, puisque... jusqu'à présent, on apparaissait comme un peu des fous furieux ou des gens qui empêchaient de dormir en rond, en dénonçant les dangers du nucléaire. Voilà. Et puis, y a eu la catastrophe de Tchernobyl, qui a commencé à ébranler en 86, il y a 25 ans de cela. Et puis, il y a eu dernièrement la catastrophe de Fukushima. Et là, il y a vraiment une bascule au niveau de la population qui s'est rendu compte que, en fait, ça n'arrivait pas que dans des pays arriérés ou prétendus arriérés comme l'Union soviétique, mais que ça pouvait arriver aussi, la catastrophe nucléaire, arriver dans un pays hautement technologique, hautement développé. Et donc là, il y a eu une bascule. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène d'identification de la population en termes de valeurs, de fonctionnement, de repères, d'idéologie, on va dire, hein, de culture. Et là, il y a eu bascule. Même si c'est loin, parce qu'il y a aussi ça, c'est contradictoire, même si le Japon apparaît loin, il y a quand même une proximité de conditions et de modes de vie qui fait que la population a basculé. Et on s'en rend compte là très, très concrètement dans nos rassemblements.
De quelle manière, par exemple ? Les gens viennent vous voir, vous parlent de ce qui s'est passé à Fukushima, ils veulent avoir des informations là-dessus.
Alors, voilà, il y a une recherche d'informations, effectivement, qui ne soient plus des informations officielles, parce que je pense que le crédit, la crédibilité à la fois des institutions, du gouvernement et des opérateurs du lobby est entachée. Les gens ne font plus confiance du tout, notamment depuis l'affaire de Tchernobyl où le nuage s'était soi-disant arrêté à la frontière. Et donc c'est vrai qu'il y a un souhait d'en savoir plus, et d'en savoir plus à partir de la réalité du terrain, à la fois des habitants qui habitent à côté et des salariés qui vivent dans le monstre nucléaire.
On parlait de Fukushima tout à l'heure, il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine, il y a un rapport gouvernemental qui est apparu et qui montre qu'en fait les dégâts qui ont été occasionnés à la centrale de Fukushima Daiichi, ce sont des dégâts qui ont été occasionnés par le tremblement de terre et pas par ce qui avait été dit dans les médias et par TEPCO, qui est la société qui gère ces centrales depuis le début, qui était les dégâts qui avaient été créés par le tsunami. Les risques sismiques sur la vallée du Rhône, sur ces installations nucléaires, c'est quoi exactement ?
C'est très clair, c'est que tous les sites nucléaires en vallée du Rhône sont construits sur des failles sismiques, à la fois des failles transversales et des failles longitudinales. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ils ont implanté tous les sites nucléaires sur les failles sismiques, c'est-à-dire sur des lieux qui bougent. Il y a 2 ans, il y a eu des grappes de micro-séismes, par exemple, sous Tricastin. Et les sismographes, les sismologues enregistrent en permanence des séismes. Il y en a déjà eu dans le passé, il y a une centaine d'années, du côté de Lambesque, donc dans les Bouches-du-Rhône. Et on voit que, en fait, la Terre bouge, la Terre vit. Et c'est à l'être humain de s'adapter à la Terre et pas l'inverse. On ne dompte pas la Terre. On peut essayer de composer avec et d'agir avec, en osmose, en intelligence, mais pas avec des gros sabots comme ils l'ont fait au nom d'un scientisme complètement dépassé et fanatique, quoi.
Et officiellement, que dit EDF, que dit Areva sur ces risques-là ? Enfin, quel est leur discours ?
Alors, il a changé là aussi, puisqu'il y a encore quelques années, dormez en paix, braves gens, on s'occupe de tout, tout est sécurisé. Et puis là, depuis Fukushima, ils ont dû quand même répondre à la pression de la population, hein, et aux exigences de clarté ou de tentative d'avoir des infos. Ils reconnaissent aujourd'hui qu'en vallée du Rhône, il y a des risques sismiques, des risques d'inondation avec le Rhône, notamment, quoi. Et qu'aucune des installations n'est aux normes antisismiques. À Cadarache, par exemple, sur 19 installations nucléaires de base, 16 ne sont pas aux normes antisismiques.
D'accord. Quels travaux faudrait faire dans ces centrales pour atteindre ces normes ?
Impossible. Impossible, parce que la conception, qui remonte déjà à plus de 30 ans, n'intégrait absolument pas ces paramètres, ou pas suffisamment ces paramètres antisismiques. Et pour qu'il puisse y avoir mise aux normes, ça représenterait des budgets tels que ce n'est pas possible. C'est impossible de financer la mise aux normes, parce que ça implique notamment de reprendre la base, le fond des réacteurs, donc la dalle de béton. Ça voudrait dire démonter l'ensemble des réacteurs, refaire une dalle de béton, la faire suffisamment épaisse pour qu'elle puisse résister, et avec des nouvelles technologies qui permettent de résister au séisme. Or, ce n'est pas possible. On ne peut pas démonter comme ça un réacteur ou une installation nucléaire et puis dire on refait. Ça coûterait des milliards, des centaines de milliards, et ça monterait le prix du kilowattheure à des niveaux complètement délirants. Et en plus, techniquement, ça n'est pas possible. On ne peut pas mettre aux normes antisismiques les installations actuelles.
Comment vous arrivez à désactiver justement ce prétexte, cet argument qui est diffusé partout dans les médias, qui consiste à dire que si on arrête le nucléaire, le prix de l'électricité va quadrupler, que voilà. Donc, en fait, les militants sont un peu taxés de « oui, vous voulez retourner à la bougie » et tout. Comment vous arrivez à désactiver cet argument-là ?
Ouais. Alors, l'argument de la bougie, il ne fonctionne plus. Il faut avouer qu'il a fonctionné pendant des décennies. Hein. C'était le gros mouvement de propagande permanent du lobby nucléaire et de l'État, hein, de l'État nucléaire. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce que face au risque, les gens sont prêts, intellectuellement, psychologiquement, à minorer leur consommation pour pouvoir rester en vie, quoi. Voilà. Donc l'argument de « si c'est le retour à la bougie » marche pas. L'argument de « le prix du nucléaire, le prix de l'électricité va augmenter » Comment on le combat ? Tout simplement à partir de la réalité, c'est-à-dire que le prix aujourd'hui qu'on paye de l'électricité n'est pas le prix réel, c'est un prix qui est subventionné et qu'on paye par nos impôts indirectement, mais qui n'intègre pas par exemple le prix du démantèlement des installations et toute une série de paramètres qui font que en fait le prix du kilowatt-heure réel d'énergie nucléaire est deux fois plus cher que tous les autres kilowatt-heure électriques produits par les autres sources d'énergie, y compris le charbon, le fioul, le nucléaire, le géothermique, etc. Donc l'argument, il est simple. Ce que vous payez n'est pas le prix réel. Et aujourd'hui, de toute façon, dans cette dernière année, tout en ayant le nucléaire, le tarif de l'électricité a augmenté de 30% en 2010 et 2011. Donc c'est le nucléaire qui fait que le prix augmente. Et ce n'est pas la sortie nucléaire ou l'arrêt du nucléaire.
On va revenir un peu à ce qui s'est passé dans le secteur en termes de risque nucléaire. Le 12 septembre dernier, il y a eu un accident au Centraco, c'est ça, qui est un centre de traitement de déchets de faible activité, c'est ça ?
Oui, la Centraco, donc ouais. C'est une unité, ce sont deux fours de traitement de déchets nucléaires, qui est une filiale de la Socodei, qui elle-même est une filiale d'EDF, quoi, voilà. Donc c'est un lieu, ce sont des fours de traitement de déchets nucléaires qui visent à refusionner des déchets pour essayer d'en refaire autre chose.
C'est des déchets de quel type qui arrivent là, qui sont issus du nucléaire civil ou militaire ?
Les deux. C'est ça le terrible, c'est que d'une part, on nous oppose souvent le secret défense ou le secret de fabrication, hein, voilà. Mais il est clair que les informations qu'on a de l'intérieur, de la part des salariés qui osent défier l'ordre établi, parce qu'il s'agit vraiment d'une dictature et d'une oppression terrible sur les salariés du nucléaire, notamment les sous-traitants, hein, voilà. Les informations qu'on a de l'intérieur, c'est qu'effectivement, c'est à la fois des déchets nucléaires civils et militaires que la Socodai, que Centraco, donc EDF et Areva fusionnent, et la provenance est très incertaine. Les directions sont très embarrassées pour mettre carte sur table et dire vraiment de quoi il s'agit. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des déchets radioactifs, dit-on de faible intensité, mais certains de longue vie. Donc là aussi, il faut être clair, hein, ça peut être de faible intensité.
C'est quoi exactement?
Ça peut être 10 000 ans. Voilà, le terrible, c'est que d'un côté, on a des déchets qui peuvent être moindrement radioactifs, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inoffensifs, mais qui vont durer 10 000 ans ou 100 000 ans, et puis d'autres qui vont durer peut-être que 50 ans, mais qui sont hautement radioactifs, encore plus dangereux que les autres. En fait, c'est une catégorisation qui est complètement arbitraire et purement techniciste, mais sur l'impact sur la santé, c'est aussi nocif.
D'accord. Alors, il y a eu un problème avec cet accident, c'est-à-dire que les relevés qui ont été effectués par rapport au taux de radioactivité que contenait le four ont changé. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu des relevés, et puis un mois ou deux après, il y a eu une réévaluation, et en fait, ils se sont rendus compte que les relevés étaient 476 fois supérieurs à ce qui avait été annoncé au départ. Le 14 octobre, vous aviez fait des relevés. Alors, ça a donné quoi? Et ces relevés, vous les avez fait comment?
Alors voilà, nous dès qu'on a eu connaissance de l'accident nucléaire de la Centraco, on a mis en place notre système qui est un système de mesure de radioactivité, hein, que on mesure depuis Fukushima deux fois par jour le niveau de radioactivité en Vaucluse.
Par
un système de compteur Radex, hein, de compteur donc de mesure de radioactivité. Hein. Donc c'est un compteur Geiger, hein, classique. Et donc en plusieurs points du département de Vaucluse, on mesure le matin et l'après-midi. Et ce jour-là, le jour de l'accident de la Centraco, notre compteur de l'après-midi, la mesure d'après-midi, a indiqué effectivement au pied du Ventoux une mesure qui était supérieure de 4 fois à la norme, à la normale, on va dire, bien que ça soit toujours anormal. Hein.
C'est à combien de kilomètres le pied du Mont Ventoux de l'accident?
C'est une quinzaine de kilomètres, voilà. À partir de là, on est parti faire des mesures sur différents points du Vaucluse, du Gard et de l'Hérault. On voulait voir ce qui se passait réellement et d'où ça provenait. Et c'est vrai que les mesures qu'on a effectuées ont montré des taux de radioactivité supérieurs, des fois de 4, voire de 10 fois supérieurs aux mesures habituelles. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose.
La CRIRAD a fait, elle aussi, des mesures à la suite de cet accident. Enfin, le jour même, le lendemain.
Alors, la CRIRAD n'a pas fait des mesures spécifiques. La CRIRAD a des balises permanentes, sur, notamment sur Avignon, hein, des balises à la fois, deux balises, une d'eau et une d'air. Et leurs balises mesurent un certain type de radiation. Nous, nos mesures sont des mesures plus vastes, qui mesurent plus de niveaux ou de types de radiation. Voilà. Hein, je ne rentre pas dans le détail, mais il s'agit de alpha, bêta et gamma, etc.
C'est ça.
Et c'est vrai que les balises de la CRIRAD ne mesurent pas tout. Et d'une part, et d'autre part, la balise notamment aérienne de la CRIRAD se trouve en hauteur, à 15 mètres de haut, sous les toits de la mairie d'Avignon. Voilà. Donc, nous, nos mesures ont été faites au ras du sol, là où se trouvent les humains. Quoi. Voilà. Donc, il y a eu effectivement un décalage entre nos mesures et ce qu'ont enregistré les balises de la CRIRAD. Ce n'est pas contradictoire, c'est simplement qu'on ne mesure pas les mêmes choses et qu'on ne les mesure pas au même endroit. Quoi.
Voilà. D'accord. Et la CRIRAD, quel regard ils ont sur le combat que vous menez, vous, et les résultats que vous avez pu donner à l'occasion de cet accident? Ils sont à l'écoute de ça ou disent, bon... Enfin, on n'en tient pas compte parce que de toute façon, ce n'est pas valable.
Alors,
enfin, le rapport entre la CRIRAD et le côté militant citoyen, là,
d'accord.
C'est quoi?
Bon, donc, moi, je ne peux pas parler au nom de la CRIRAD. Ce que je peux dire, c'est notre regard de citoyen sur... Voilà. Le point de vue, c'est que la CRIRAD est une institution qui joue un rôle intéressant au niveau de son activité de mesure de radioactivité. Ceci étant, ce n'est pas une association antinucléaire, ce n'est pas une... Elle-même le dit, hein, je veux dire, son président l'affirme et le réaffirme à chaque fois. Ils ne sont pas antinucléaires. C'est un laboratoire spécialisé en mesure de radioactivité, point final. Voilà. C'est un outil qui peut être utilisé par les antinucléaires, mais ce n'est pas Dieu le Père. Quoi, voilà. Hein. Et puis ils sont
pourtant,
dans...
Ils communiquent beaucoup. Enfin, moi, le regard que j'ai de quelqu'un qui s'intéresse au sujet, mais qui ne le connaît pas aussi bien que vous, avec un regard extérieur, quand on entend parler de l'antinucléaire en France, il y a la CRIRA qui arrive de suite. Enfin, il y a cette image-là. Or là, vous nous dites que c'est pas forcément le cas. En tout cas, eux, ils disent qu'ils sont pas antinucléaires. Donc ça, c'est surprenant pour moi.
Oui. La CRIRA est née au lendemain de Tchernobyl, de la catastrophe de Tchernobyl, avec un souci, effectivement, de donner une information indépendante sur la radioactivité.
C'est Michel Rivasi, non, je crois, qui
est au départ, entre autres, il y a eu d'autres personnes, dont Roland Desbordes, l'actuel, l'actuel leader, on va dire, et puis d'autres personnes, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fil des ans, la CRIRA est devenue une institution et une entreprise. C'est-à-dire que, même si c'est sous forme d'association, c'est une entreprise qui a des salariés, qui a besoin de vivre et dont le budget provient essentiellement des financements publics, c'est-à-dire des commandes des collectivités territoriales de différents niveaux.
Un manque d'indépendance peut-être avec cette proximité avec les
Manque d'indépendance ou pas, toujours est-il que sa survie et la survie de ses salariés dépendent de la puissance publique en grande partie, pas uniquement, il y a évidemment des donateurs, des gens comme vous et moi qui peuvent être, je dirais, potentiellement abusés et donnés en toute bonne foi, mais voilà. Donc, effectivement, nous sommes, en tant que Cannes 84, nous sommes des citoyens, nous sommes des gens, on va dire, des gens, des salariés, de la population. Donc, on n'a pas de lien avec ni les institutions, on n'a pas d'intérêt à ce que le nucléaire perdure, puisqu'on n'est pas une entreprise, donc on a... Donc nous on est totalement indépendants, libres de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours de ce qui sont devenus des ONG et donc des entreprises intégrées dans le système.
Donc en revenant à cet accident, il y a eu un mort, je crois, et plusieurs blessés, dont un jeune stagiaire qui a été gravement brûlé. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce jeune homme-là et des autres blessés?
Oui. Alors, d'une part, il y a eu un mort donc directement, malheureusement, dans une douleur et une souffrance terrible, quoi. C'est un salarié, un travailleur qui a été brûlé par du métal en fusion radioactif.
C'est un Espagnol, je crois.
D'origine espagnole, tout à fait. Oui. Et puis il y a un de ses collègues qui était donc un des sous-traitants, un des nombreux sous-traitants auxquels fait appel maintenant le lobby nucléaire pour des raisons purement financières et économiques et de profit. Et donc cette personne a été dirigée vers l'hôpital militaire de Percy-Clamart. C'est-à-dire que aussitôt, c'est la défense, les militaires qui ont pris en charge quelque chose qui, nous avait-on dit, était de l'ordre de l'accident industriel. Oui. Donc si c'est un accident industriel, pourquoi une prise en charge par l'armée, même si
avec
on peut...
Avec cet aspect de secret qui est
secret,
l'armée.
Tout à fait. Voilà. Donc on sait que évidemment des mesures de protection de radioactivité avaient été prises. On sait que, par exemple, le cercueil de la personne, de l'ouvrier décédé, était plombé pour éviter les radiations. Donc, évidemment, il y a eu radiation. Alors, aujourd'hui, à notre connaissance, ce salarié est toujours hospitalisé dans un état très, très grave. Voilà. Et les autres salariés, eh bien, c'est le blackout total, c'est l'omerta. On est face à une mafia, en fait. C'est un système mafieux qui contrôle et qui impose sa loi.
Et les familles de ces gens-là qui ont été blessés ou qui sont décédés, est-ce qu'elles parlent?
Alors,
est-ce qu'elles peuvent parler? Et dans quelle mesure elles peuvent parler? Et est-ce qu'elles le font?
Alors, ouais, on est au cœur là du drame à la fois humain et antidémocratique et d'oppression de notre système dit démocratique, en tous les cas, voilà, où les salariés sont des esclaves et sont à la fois contraints d'aller chaque jour vendre leur force de travail et en même temps d'être soumis à la pression et à la terreur de la loi du silence. Il faut savoir que les salariés, quand ils rentrent dans le nucléaire, signent un engagement de secret défense, de loi du silence. On ne doit pas parler de ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis d'autre part, il y a tout un travail, une stratégie d'achat des consciences de par les directions des différentes entreprises du lobby, où effectivement, il va y avoir des facilités accordées à tel ou tel salarié, des facilités financières pour acquérir leur maison, pour acquérir ceci, pour avoir telle promotion. Et puis s'il y a un accident, s'il y a un blessé, s'il y a un mort, eh bien le lobby va mettre la main à la poche. Et donc, ça va acheter les consciences. Les familles vont avoir tendance à dire, au moins, on touche un peu d'argent après le drame que nous venons de vivre. Ça a été le cas aussi quand il y a eu la fuite au Tricastin, hein, la fuite de tritium, de 70 kilos de tritium, l'été 2008 au Tricastin, où des nappes phréatiques qui servent à l'arrosage des cultures, de la vigne, ont été atteintes. Eh bien, le lobby a indemnisé les agriculteurs à raison de quelques centaines d'euros l'hectare de vin, de vigne. Voilà. Et donc, on a acheté la conscience des agriculteurs. On les a indemnisés, le lobby les a indemnisés, mais en même temps, on ne leur a pas interdit de commercialiser leur vin qui était radioactif.
Oui, on en avait parlé, enfin, on en parle d'ailleurs à cette époque-là, le vin de la vallée du Tricastin. Ces rejets-là, en particulier ceux dont vous venez de nous parler, quelles conséquences ça a sur la santé des gens qui vivent ici, à plus ou moins court terme?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la radioactivité, c'est un peu comme un billard, hein. C'est la destruction atomique, hein, parce qu'on parle du nucléaire, mais en fait, le nucléaire, au-delà des mots, le nucléaire, c'est quoi? C'est de la destruction atomique. La destruction atomique, c'est un peu comme un billard, hein. Vous lancez une boule sur un plateau de billard qui va tamponner une autre boule, qui va exploser, qui elle-même va exploser, etc. C'est une réaction en chaîne. Et puis, donc, il y a différentes, on va dire, grosseur de boule, et puis durée d'explosion de la boule. Voilà.
Donc c'est une prise de risque avec la nature, avec ce qu'ils font de la nature, puisque l'atome, c'est...
C'est la destruction du vivant. Voilà. Hein. L'atome, c'est ce qu'ils font de le vivant, et là, ils ont mis au point quelque chose d'assez machiavélique, qui est effectivement de détruire l'atome de vie pour produire de la chaleur. Hein. Parce que ça n'est que ça, hein. Le cycle nucléaire, c'est produire de la chaleur. On sait produire de la chaleur autrement, par du bois, par du gaz, par du fioul, mais là, ils ont dit, on va détruire l'atome et ça va produire de la chaleur. Et cette chaleur, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va faire chauffer l'eau. On va faire chauffer l'eau de nos centrales, qui a été chauffée avant par d'autres choses, hein, par d'autres combustibles, carburants. Ils ont décidé que ça serait l'atome, la destruction atomique, qui va chauffer de l'eau. Et cette eau, une fois qu'elle va chauffer, elle va produire de la vapeur.
Elle entraîne une turbine, c'est ça?
Et la vapeur va produire une vapeur d'eau qui elle-même va entraîner une turbine, qui elle-même, en fin de course, va produire un peu d'électricité. Un peu, pourquoi? Parce que le rendement du cycle de nucléaire, il n'est que de 30%. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez au distributeur bancaire, vous, avec votre carte, vous demandez 100 euros, et le distributeur vous en donne que 30. Voilà. On est dans cette aberration. Mais il fallait que ça ait lieu. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de justifier la bombe atomique. Le nucléaire civil n'est que l'avatar du nucléaire militaire, de la bombe atomique.
Le programme français nucléaire qui a été créé par M. Mesmer, c'est ça en fait pour vous. C'est une manière de justifier la création de la bombe en fait. Quoi.
Ah, tout à fait. Il n'y aurait pas eu la bombe atomique nucléaire, il n'y aurait pas eu le nucléaire civil. Ils n'auraient pas cherché à récupérer cette énergie déployée pour en faire du business, bien sûr. Alors ensuite, ça a été recouvert de toute une phraséologie et une idéologie d'indépendance nationale, de grandeur de la France, de prestige. Mais ça, c'est le vernis qu'ils ont passé sur le crime initial, qui est la destruction de l'atome de vie.
Donc, on va revenir à la question, parce que c'est un peu éloigné.
Pardon.
Non, c'est moi aussi qui développe un peu, parce que c'est bon, là, on touche à des sujets qui sont très intéressants. Quoi. On va encore en parler des heures. Les conséquences sur la santé à plus ou moins long terme ou court terme sur ici les populations, qu'elles soient au pied des centrales, des installations nucléaires ou un peu plus loin.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le processus de destruction atomique, donc qui génère de la radioactivité, se répand dans l'eau et dans l'air. Hein, donc, ici, dans notre région, c'est essentiellement le Rhône et les rivières adjacentes et les nappes phréatiques. Et l'air, malheureusement, c'est ce que tout un chacun respire. Donc, il n'y a pas de dose de radioactivité anodine. Toute dose de radioactivité, c'est-à-dire toute dose de destruction nucléaire, touche nos cellules. En l'occurrence, si on prend le cas du tritium qui a été déversé au Tricastin...
Donc c'était en 2008, hein,
L'été 2008, juillet 2008, donc 70 kilos de tritium, une fuite.
Hein, qui a été rejeté dans l'eau,
parce qu'ils n'avaient pas trouvé, ils ne s'en sont pas aperçus. Et puis ils n'avaient pas l'outillage pour empêcher le truc. Et puis la personne qui détenait la clé de l'armoire, elle était en vacances, c'était en été, et ainsi de suite. Quoi.
C'est burlesque.
C'est complètement... On nous parle d'un nucléaire sécurisé, hautement technologique, mais en fait, ils travaillent avec des bouts de ficelle, des vieux chiffons, etc. C'en est là, hein. C'est là la réalité. Alors l'impact, pour revenir à votre question. L'impact sur la santé, eh bien, c'est quoi ? C'est des leucémies, des cancers du foie, des cancers des poumons, c'est des atteintes à l'ADN, c'est des maladies neurologiques, c'est des maladies cardiaques, etc. Il y a tout un panel, malheureusement, d'atteintes à la santé, à l'équilibre du corporel et psychique de l'individu par la radioactivité. Il n'y a pas de dose anodine et l'impact peut être ou à très court terme, malheureusement, et ça peut être des cancers qui évoluent très vite, ou ça peut être à long terme, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire que, y compris ce qui s'est passé par exemple à Tchernobyl, on voit que des enfants qui n'étaient pas encore nés, mais dont les mères avaient reçu des radiations, naissent avec des malformations et avec des problématiques liées à la radioactivité.
Vous disiez qu'il n'y a pas de dose anodine. Le problème des faibles doses chez les salariés, chez les gens qui travaillent dans ces centrales et ailleurs, c'est quoi exactement ? On a fait des études là-dessus, sur l'impact de ces doses-là ?
Alors, bien sûr qu'on connaît cela au niveau international. En France, on veut ne pas connaître.
Oui.
Voilà. Alors, on définit des normes, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de normes internationales. Hein. Chaque pays développe et fixe ses propres normes en fonction du poids de son lobby nucléaire hein, national. Donc en France, on a défini qu'un ouvrier ou qu'un salarié travaillant dans le nucléaire pouvait prendre telle dose. Et puis au-delà, on a estimé que, bon, évidemment, on admettait qu'il soit malade, mais là, il risquait d'être un peu trop malade, donc on a dit qu'il n'en faut pas plus. Mais il faut savoir que ces niveaux de dose ont changé. Il y a 50 ans, enfin au début du nucléaire, les doses étaient 100 fois plus. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est dit, ah bah tiens, on va baisser les doses parce que vraiment, là, il morfle. Hein. Il y a beaucoup de morts ou beaucoup de victimes. Et puis, ainsi de suite. Donc, une dose n'est qu'une norme. Et une norme n'est que quelque chose d'arbitraire, défini en fonction de rapports de force entre ce que veulent les citoyens et ce qu'imposent les pouvoirs en place, qu'ils soient économiques ou politiques ou scientifiques.
D'accord. On va aborder un peu un autre sujet qui est aussi un peu un sujet un peu tabou. C'est le rôle des syndicats dans ce problème-là. Parce que là, on est dans une conjoncture économique un peu difficile. Arriver à annoncer qu'ils allaient supprimer les postes. Quelles sont, vous, les informations et les rapports que vous pouvez avoir avec les militants syndicaux qui travaillent au cœur de ces centrales ? On sait que Sud, par exemple, a un regard qui commence un peu à changer sur ces activités-là, ce qui n'est pas forcément le cas de la CGT, par exemple. Pour moi, connaître des militants CGT, ce n'est pas forcément leur position. C'est quoi l'opinion syndicale généralement sur ce qu'il faut faire avec ces salariés du nucléaire ? Et est-ce qu'il faut qu'on s'en en sorte et est-ce qu'il faut aller vers d'autres types d'énergie ? Ou est-ce qu'on fonce tête baissée en disant qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut privilégier les emplois ?
Alors là encore, ça bouge. Là encore, ça bouge. Et heureusement que ça bouge, puisqu'on était jusqu'à présent, jusqu'à encore il y a un an ou deux, dans un obscurantisme de défense, bec et ongle de l'emploi, quitte à produire n'importe quoi et à faire n'importe quoi, mais qui, au nom de la défense des salariés, quelles que soient les conditions, c'était on accepte tout du patronat, et donc, quelque part, on collabore. Donc, on n'était plus du tout dans la défense des salariés, mais dans la défense de l'emploi. Et c'est pas la même chose, défendre les salariés et défendre l'emploi, ça n'a rien à voir. Les syndicats, malheureusement, de mon point de vue, hein, j'engage pas le CAN 84, là, mais de mon point de vue, il y a eu un glissement du rôle des syndicats, défense des intérêts des salariés, vers une défense de l'emploi, c'est-à-dire de la survie alimentaire, ce qui n'a plus rien à voir. Voilà. Alors c'est vrai que jusqu'à dans la dernière période, essentiellement, le syndicat Sud avait fait un travail d'analyse de fond et de positionnement qui, effectivement, tout en défendant les salariés du nucléaire, s'est positionné pour une sortie et un arrêt du nucléaire. La plus puissante...
Dans quel scénario 10 ans, 20, 30, ils n'ont pas donné de scénario précis.
C'est pas encore bien net, mais visiblement, la tendance serait à une sorte... Enfin, le plus rapidement possible, voilà. Le syndicat majoritaire, la CGT, qui est le plus puissant historiquement, hein, et qui est pro-nucléaire historiquement, hein, depuis le début, ça bouge aussi à l'intérieur, aussi bien au niveau du syndicat des cadres, donc l'UGIC de CGT, qu'au niveau des ouvriers CGT. c'est pas encore gagné, mais il émerge un courant effectivement de plus en plus important de salariés qui remettent en cause même le fonctionnement même du nucléaire. Il y a toujours cette idée de parvenir à un nucléaire sécurisé et public chez eux, mais ils savent très bien pertinemment que c'est un leurre, que c'est une course poursuite sans fin et qui n'est pas une position d'avenir.
D'accord.
Donc nos relations avec les syndicats changent. Jusqu'à présent, ils nous considéraient comme des ennemis, voilà, hein, qui voulaient porter atteinte aux salariés et voilà, aux intérêts des salariés. Aujourd'hui, on commence à avoir des relations, des discussions, des expressions en tous les cas de position. On n'en est pas encore à une convergence, mais ils semblent bien, ils perçoivent bien qu'ils sont certes défenseurs des salariés, mais un salarié, c'est aussi un citoyen, un habitant, en dehors de l'entreprise, et qu'il ne peut pas se couper en deux, être d'un côté victime et de l'autre côté le criminel.
Et donc ce regard qu'ont encore certains salariés du nucléaire sur ce côté un peu idéologiquement, quoi, ce côté un peu magique. Quoi. Moi je me souviens avoir rencontré de manière fortuite quelqu'un comme ça dans une gare quand j'entendais un train. Et j'étais assis, donc j'attendais mon train, il y avait deux personnes qui discutaient à côté, et puis nucléaire. Donc une personne, et au fil de la conversation, j'ai entendu que ce monsieur-là travaillait au sein d'Areva, donc dans le nucléaire. Et il parlait donc, je ne sais plus de quelle installation. Et il disait, là, vous voyez, je crois que c'était ITER, et il disait, là, vous voyez, on va pouvoir recréer un petit soleil. Il avait les yeux qui brillent, ce monsieur-là. Donc, est-ce que ce côté magique-là, c'est en train un peu de s'effriter, même de la part des gens qui travaillent à l'intérieur de ces centrales?
Oui, oui, oui. Il y a toujours ceux qui ont gardé, on va dire, non pas leur âme d'enfant, mais leur infantilisme. Et qui sont adultes aujourd'hui, non plus dans une démarche scientifique, qui est effectivement une démarche inhérente à l'homme, hein, essayer de comprendre, de percer les mystères de la vie, donc ça c'est une démarche scientifique, mais là ils sont dans une démarche scientiste, ce qui n'a plus rien à voir. En fait, ils ont basculé progressivement ou idéologiquement dans un dogme, une sacralisation d'une démarche scientiste qui devient leur veau d'or, qui devient leur dieu. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé...
Donc il y a une absence de rationalité, là, presque.
Tout à fait. C'est anti-scientifique. Leur attitude est anti-scientifique, anti-rationnelle, et c'est devenu un dogme idéologique scientiste qui est jusqu'au boutiste, tout en se rendant compte qu'on est dans le mur, on est dans un acte, oui criminel, mais on est subjugué. Ils sont subjugués par leurs propres croyances, quoi. Ils ont perdu tout sens rationnel et scientifique. Ils n'ont plus de recul, plus de regard, plus d'analyse sur ce qu'ils font.
Politiquement, on est dans une année de présidentielle, même si ça ne devrait pas régir toute la vie politique et citoyenne. Malheureusement, ça la régit via les médias, entre autres. Quel regard vous portez-vous sur les scénarios qui ont été envisagés à gauche, chez Europe Écologie et au Front Gauche, avec un positionnement un peu particulier au Front Gauche, puisque eux, ils sont sur une position de référendaire, donc d'appel à la démocratie. On a vu aussi cet accord Europe Écologie-IPS. Quel regard vous portez sur ces positionnements-là? Et est-ce que vous pensez que c'est des positionnements qui sont sincères jusqu'au bout? Je termine ma question.
D'accord. Alors pour nous, c'est le nucléaire, c'est ni une question technique, ni une question politique. Voilà. C'est une question purement de santé publique, c'est une question sanitaire. C'est pas une question d'alliance, de stratégie, d'élaboration de programme. Non, c'est une question tout simplement de survie de la planète et du vivant sur Terre. Donc on est très clair par rapport à ça. C'est dès à présent qu'il faut arrêter immédiatement le nucléaire, parce qu'à danger immédiat, arrêt immédiat. Tout le reste, ce sont des stratégies, des connivences, des donnant-donnant, des marchandages qui n'ont rien à voir avec le réel, qui ont à voir avec d'autres arrière-pensées, mais qui ne correspondent pas à la réalité de la monstruosité et du danger du nucléaire.
Quel scénario de sortie vous proposez pour sortir au plus vite de cette énergie-là ?
Arrêt immédiat des installations nucléaires, donc des réacteurs, remise en route des réacteurs non nucléaires existants et qu'EDF a fermé en grande pagaille, en grande quantité pour justifier le tout nucléaire. Donc il existe en France des tas d'installations non nucléaires productrices d'énergie, comme les centrales fuel, les centrales gaz, les centrales cogénération, les centrales y compris à charbon décarboné. Il faut savoir que EDF vend à l'étranger, avec un très beau succès commercial, des centrales à charbon décarboné. Donc ce qui serait valable pour l'extérieur, pour les autres pays, ne serait pas valable pour nous. Voilà. Donc nous, on est pour, dans une phase transitoire la plus brève possible, la réouverture de toutes les centrales non nucléaires existantes, de façon à pouvoir fermer toutes les centrales immédiatement. Et évidemment, augmentation des capacités aussi des centrales hydrauliques, puisqu'on a la chance quand même d'être dans un pays avec des capacités hydrauliques, et on peut encore avoir des gains de productivité et de production d'énergie, hein, à peu près 10%. Il y a la biomasse, il y a la houle, il y a le solaire évidemment, il y a donc les centrales fuel, cogénération, gaz, charbon décarboné. En attendant que les énergies renouvelables prennent le relais. Et évidemment, il faut que ça s'accompagne de pair d'une réduction des consommations, mais qui ne sont pas forcément une réduction des consommations individuelles, mais des consommations collectives, comme par exemple toutes les zones commerciales qui restent allumées le soir, tout ce gâchis d'énergie purement pour le business et l'économie et la vente, et qui représente 2 à 3 réacteurs rien qu'en France sur 58.
Donc là, ça permettrait aussi un peu de changer de paradigme dans tout ce qui est consommation d'énergie et d'aller vers des choses qui sont plus sobres.
Voilà, je pense.
Sans dire
que...
décroissante, mais au moins sobre.
Oui, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de rationnel, de sortir de cette névrose et de cette psychose collective de la surconsommation. On peut très bien vivre sans forcément avoir 3 télés, 2 congélateurs et tout ce genre de choses, mais en sachant aussi que ceux qui consomment le plus, c'est pas tant les particuliers que les industriels, avec un énorme gâchis. Et notamment, le gâchis, c'est aussi le système centralisé de production d'énergie, qui est une totale aberration, puisque rien qu'en ligne, il y a une perte de 3% sur ce qui est produit comme énergie, parce que les lignes haute tension, les lieux de production sont centralisés, et que ça part par des lignes haute tension qui arrivent ensuite en des sous-tensions pour arriver enfin sur votre prise électrique, mais il y aura eu 3% de perte. Alors, quand 3%, c'est pas rien, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'euros, et donc de kilowattheures consommés, perdus plutôt, et pas consommés. Voilà.
Et les centrales qui restent, on en fait quoi ? Il y a des solutions qui sont proposées de démantèlement. Est-ce que le démantèlement, c'est pas trop dangereux en termes de rejet ? Parce qu'on va devoir transporter des matières et des éléments qui sont radioactifs. Il y a aussi des gens qui se prononcent pour une autre forme, c'est la sanctuarisation des centrales. Vous êtes sur quelle position ?
Nous, on est sur la position que les monstres qui ont engendré le crime doivent être obligés de répondre de leur crime d'une part, et de résoudre et d'apporter les solutions. Donc il est clair que tous les sites nucléaires aujourd'hui, on ne peut pas les démanteler du jour au lendemain. C'est impossible. Il faut attendre que le niveau de radioactivité baisse. Malheureusement, les monstres ont enfanté un monstre. Voilà. Donc nous, on est effectivement pour le démantèlement, mais dès lors qu'il y aura un taux de radioactivité qui n'exposera pas les salariés.
On les éteint, on les réinactive et
voilà.
On attend.
Et on attend que la radioactivité baisse pour pouvoir enfin intervenir sur le démantèlement. Et là, c'est une phase aussi qui va à la fois maintenir de l'emploi et créer de l'emploi, puisque mettre à l'arrêt tous ces sites nucléaires, ça nécessite du personnel qualifié. Donc c'est du maintien d'emploi. Ça nécessite aussi d'envisager la future reconversion des salariés qui vont pouvoir ensuite démanteler. Donc ça veut dire élaborer de nouvelles formations, de nouvelles compétences professionnelles. Ça veut dire que là aussi, c'est une porte d'avenir.
On a trouvé la solution, oui, pour redonner du travail
voilà,
à ces gens-là.
Voilà, tout à fait. Et en plus, ça peut être, alors là, du point de vue purement économique, ça peut être un secteur d'activité d'exportation où la France serait enfin exportatrice d'une expertise au démantèlement à l'étranger. Et enfin, on remplacerait notre rôle, effectivement, de destructeur par un rôle de constructeur.
Avant de terminer, un point sur Tchernobyl. Je crois que là, ils sont en train de reconstruire un nouveau sarcophage. Enfin, en tout cas, c'est ce qui va être fait. Et moi, j'avais regardé un reportage. Alors, ce qui fait rire jeune, c'est que ceux qui vont construire le nouveau sarcophage ils sont très proches quoi, d'Areva, c'est Bouygues, c'est tout ça. Donc ce sont les mêmes qui les construisent en fait. Enfin, ce sont les mêmes qui construisent des centrales qui après. Donc c'est un peu une communauté d'intérêts, tout ça qui est assez spécial.
Oui, on est vraiment dans une société malade et schizophrène. Ouais, C'est-à-dire qu'on demande toujours aux criminels d'être le médecin. On demande d'être à l'empoisonneur d'être le guérisseur.
C'est les profils qui remontent aussi.
Voilà, ils ont intérêt en fait. Ils ont intérêt à détruire le vivant, à détruire la société, parce que non seulement ils gagnent de l'argent en détruisant, mais ils gagnent de l'argent après, parce que c'est les mêmes qu'on appelle pour reconstruire ou pour réparer.
D'accord. Et donc là, ils sont dans quelle phase ? Ils vont commencer la reconstruction de ce nouveau sarcophage ? Est-ce que vous savez ?
Oui, alors ils sont dans cette phase où ce qui prime, c'est une fois de plus, c'est pas du tout l'intérêt des populations, de la santé et du vivant, c'est des intérêts économiques. Donc ils sont dans cette phase où de purement financière, où qui va payer et qui va en tirer bénéfice et qui va avoir telle part de marché dans la reconstruction du nouveau sarcophage. Donc évidemment, l'ancien sarcophage se fissure, donc à nouveau le danger augmente et donc il y a urgence. Et face à cette urgence, à nouveau, c'est du mercantilisme qui prédomine.
Les prochaines actions du CAN 84 sur le secteur, c'est quoi exactement ?
Alors bon,
c'est prévu ?
Oui, bien sûr. Alors nous, on n'est pas dans la ritualisation, hein, comme certains s'installent, notamment dans les périodes électorales. Nous, on est pour une sensibilisation la plus fréquente possible des populations et la mise en accusation aussi des élus. On ne peut pas, notamment dans notre région, isoler le crime du lobby nucléaire et de ce que la population subit de l'attitude des élus, toutes tendances confondues. On s'est adressé par exemple aux 151 maires de Vaucluse, des villes de Vaucluse, pour les alerter sur les risques nucléaires et notamment les impacts très concrets suite aux fuites de tritium. Aucun maire n'a répondu, n'a daigné répondre, hormis trois qui ont botté en touche en disant c'est une société sous-traitante à qui on a fourni l'eau, qui nous fournit l'eau du robinet, mais tout va bien, il n'y a pas de contamination. Un seul a dit je vais organiser un débat dans ma ville sur cette question, et puis il ne l'a pas fait. Et au Conseil général, c'est pareil. On a interpellé tous les conseillers généraux. C'est motus, c'est bouche cousue. C'est vraiment... on voit bien la dictature politique, idéologique sur toutes les institutions et tous les élus. Donc nos prochaines actions viseront à mettre en accusation publiquement les élus et à leur exiger d'eux des réponses et des positionnements très clairs, quelle que soit leur couleur politique, puisque en l'occurrence, ils sont tous pro-nucléaire. Même ceux qui prétendent ne pas l'être.
Merci à vous.
Je vous en prie.